Bienvenue pour Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Maxime. Est-ce que tu peux te présenter?
Assurément. Donc, Maxime Jobin, je suis cofondateur de Satellite WP, un service d'entretien, de performance et de cybersécurité pour les sites qui utilisent WordPress. Donc, en gros, c'est ça. On est une entreprise qui a été fondée... En fait, on a lancé le service il y a 7 ans. Donc, au départ, on faisait un peu de tout en lien avec WordPress. Puis maintenant, on ne fait que l'aspect technique. Donc, on ne fait pas de création de site, mais on reprend des projets existants. On accompagne autant des entreprises que des agences pour assurer, là, dans le fond, la pérennité de leur site avec WordPress.
Très intéressant. Justement, c'est un peu le thème de cet épisode-ci, ça va parler de WordPress. Puisque c'est largement utilisé, ça a mauvaise presse au niveau de la sécurité. Il y a des mythes entourant ça, il y a des raisons. Puis justement, un peu ce que ta compagnie fait, c'est de ramasser ces orphelins-là mal accompagnés qui les aident à relever. Donc, c'est un exercice très intéressant, très pertinent d'ailleurs. Mais je vais te laisser commencer. Explique qu'est-ce que WordPress, parce qu'on va permettre de défaire des mythes sur la solution générale, puis ensuite, on va basculer vers la sécurité.
Parfait. En fait, WordPress, c'est un logiciel, tout simplement, qu'on installe sur un serveur web, donc le serveur de notre hébergeur, et ça nous permet de créer un site web. Donc, WordPress, à la base, c'est une solution qu'on va dire open source. Donc, on télécharge le code au complet. Donc, on a absolument tous les pouvoirs pour pouvoir faire autant de très belles choses que de grosses conneries, tout dépendamment de comment on l'utilise. C'est un peu ce à quoi tu faisais référence tantôt quand tu dis on récupère là, des situations. Oui. Ben, c'est un peu en lien avec ça. Donc, WordPress, c'est un système de gestion de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça gère des contenus. N'importe quel type de contenu. Donc, c'est une solution qui est faite de manière générique. Donc, on peut gérer autant des livres, des films, des bouteilles de vin, peu importe. Ceci étant dit, la majorité des gens l'utilisent pour gérer des produits quand ils ont une boutique en ligne, des articles de blog et des pages de site web. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec l'outil. Donc, l'outil vient avec un système de thèmes, donc qui permet de contrôler le visuel du site web. Donc, si on n'aime pas le visuel par défaut, on peut modifier le visuel qu'on a et on peut tout simplement le changer ou en créer un autre totalement personnalisé. Puis, il y a un système aussi d'extension qu'on appelle aussi des plugins qui permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des fonctionnalités qui sont déjà présentes ou pas dans le si on veut, le cœur de WordPress. Donc, en très, très gros, c'est ça pour ce qui est de ce que c'est WordPress.
C'est un outil très versatile. C'est justement pour ça sa popularité, parce que tu le mentionnes, on peut, j'aime bien le mot le skinner, on peut l'adapter au visuel qui nous plaît bien assez facilement et on peut étendre sa fonction de base, qui est quand même assez puissante, vers d'autres choses avec des plugins. On en parlera plus tard, mais c'est surtout dans ces zones-là qu'on se fait mal d'un point de vue sécurité, mais pas exclusivement là. C'est une plateforme qui est largement utilisée, justement, tu le mentionnais. As-tu des exemples de sites de grande envergure qui utilisent ce genre de plateforme-là?
Oui, il y a par exemple le site de la Maison Blanche, utilise WordPress, Time Magazine, certains sous-sites de Sony. Il y a des clubs sportifs comme les Mavericks de Dallas dans la NBA. Il en existe, là. Il faut savoir que WordPress propulse plusieurs centaines de millions de sites. Donc, ça va de très, très, très petits sites personnels jusqu'à, comme j'ai mentionné, les quelques exemples d'entreprises qu'on connaît plus.
C'est très intéressant. Puis, il y a aussi un aspect de gratuité puis un aspect payant. Parce que même le nom de domaine, il y a un .com puis un .org. Il y a des distinctions entre les deux. Est-ce que tu peux justement éclairer qu'est-ce que ça représente comme distinction?
Oui. En fait... merci à la fondation WordPress et l'entreprise WordPress qui ont ajouté beaucoup de confusion à ça. Donc, en utilisant le même nom pour deux choses totalement différentes. Donc, première des choses, on a WordPress, le logiciel. Donc, le logiciel est disponible sur le site web wordpress.org. Donc, si on veut pouvoir télécharger le logiciel, télécharger des thèmes et des extensions qui sont gratuits, c'est directement sur ce site-là qu'on va. Si nous, on ne veut pas se casser la tête avec l'aspect technique, on veut juste aller se créer un compte sur un site web puis que WordPress est déjà installé pour nous, c'est là que WordPress.com entre en jeu. Donc, WordPress.com, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un site web sur lequel ils sont allés sur WordPress.org, ils ont téléchargé et installé le logiciel sur WordPress.com et nous, comme personne qui veut avoir un site web, ben on peut en avoir un directement sans avoir à se casser la tête avec l'installation, la performance, les backups et tout l'aspect technique qui vient avec la gestion d'un site web. Il existe maintenant plusieurs entreprises qui offrent un service similaire à ce que fait WordPress.com, mais à la base, c'était une plateforme où on ne pouvait pas ajouter de nouveaux thèmes, on ne pouvait pas ajouter d'extensions autres que ce qu'eux avaient présélectionné. Depuis quelques années, ils ont changé la donne. On peut maintenant avoir des forfaits qui sont payants où on peut installer différents thèmes et extensions, chose qui n'était pas possible à la base. Par contre, on est quand même limité dans ce qu'on peut faire, mais ça peut être une bonne base si on veut avoir un site rapidement sans avoir à se casser la tête. De l'autre côté, le .org, c'est la pleine flexibilité, mais aussi un aspect technique où on doit faire des choses qui sont gérées par WordPress.com si on utilise l'autre solution. Là. Fait que c'est, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est plus qu'est-ce que je veux faire puis quel niveau de flexibilité je souhaite avoir à court, moyen et long terme pour mon projet.
Oui, tout à fait. De toute façon, il y en a plusieurs autres hébergeurs, là, sans les nommer, qui font, soit sont spécialisés là-dedans, il y en a au Canada, il y en a à travers le monde, qui sont soit juste du WordPress ou offrent ça dans leur panier de services dans lequel on peut utiliser pour en arriver là. Retirer un peu de complexité dans l'administration de tout ça. Puis justement, tant qu'à continuer à parler de la gratuité versus ce qui est payant, parce que c'est pas tout ce qu'on utilise qui est gratuit. Il y a même des éléments un peu tortueux à certains égards, certains plugins qui sont à moitié, mais pas tout à fait, ou exigent des certains éléments. Est-ce que tu peux aussi démystifier ce volet-là?
Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour télécharger WordPress, ça, c'est gratuit. Il n'y a absolument aucun frais. On peut télécharger le code, mais quand je le télécharge, je l'ai sur mon ordinateur puis il doit être exécuté. Puis là, c'est là que les frais vont entrer en ligne de compte. Donc, pour pouvoir installer WordPress, bien, ça me prend un service d'hébergement. Puis ça, de manière générale, on part peut-être à une centaine de dollars par année au minimum pour pouvoir installer le logiciel. Fait que, ensuite de ça, WordPress vient avec un système de thèmes et d'extensions qui sont gratuits. Mais il existe aussi des entreprises qui en ont produit des payants. Puis évidemment, même si j'utilise juste des trucs qui sont gratuits, bien c'est important de savoir que si j'ai besoin d'un professionnel pour m'aider à installer, configurer, déboguer quoi que ce soit, bien évidemment, ça, c'est pas gratuit. Donc, c'est la notion là, de... Tu sais, des fois, on peut avoir des outils qui sont gratuits, mais les utiliser, ça peut devenir coûteux. Versus... Dans le cadre de, si on parle de WordPress.com, ben si je vais me créer un compte et que j'accepte qu'il y ait de la publicité dans ma section d'administration, qu'il y en ait peut-être sur mon site ou ce genre de choses-là, là, on va avoir un service qui va être 100% gratuit, qui sera limité dans les fonctionnalités et il y a peut-être des choix qui nous seront imposés. Mais tu sais, de manière générale, on a souvent dépeint WordPress comme étant une solution gratuite. Moi, j'aime bien rajouter une très grosse astérisque à côté de ça parce qu'il y a comme des subtilités. Puis au final, ça coûte jamais rien. Là. Donc, puis ça ne veut pas dire que c'est mieux aussi. Des fois, il y a des gens qui cherchent beaucoup des solutions qui sont gratuites parce qu'ils ont l'impression que ça sera moins coûteux. Mais au final, ces solutions-là qui sont moins complètes finissent par souvent coûter pas mal plus cher à enlever, remplacer et arranger, là, tout dépendamment du contexte.
Ouais, puis c'est un peu ça, toute la nature de tes services aussi, justement, redresser cette perception-là chez les gens et d'aller récupérer les sites qui ont été bâtis sur la perception de gratuit. J'aime bien l'expression en anglais qui dit gratuit comme l'air ou gratuit comme la bière. Et la nuance est importante dans ce cas-ci parce que gratuit comme l'air, effectivement, c'est gratuit puis il n'y a pas de problème. En tout cas, encore comme ça. Mais comme la bière, la gratuité est dans la recette, mais n'est pas dans l'exécution. Et là, ça devient important de faire cette distinction-là, justement, quand on l'opère. Ben là, il y a d'autres éléments qui s'en vont avec. Et comme on va basculer tranquillement vers la sécurité, entretenir quelque chose de sécuritaire, il y a des frais avec ça. Pas parce que ça coûte plus cher de sécuritaire, c'est juste qu'on a besoin d'entretien régulier, comme on entretient notre maison, comme on entretient notre auto. Si on ne le fait pas, ben, ça va dépérir. Dans le monde réel, on le constate, disons, si on ne change pas notre toit, ben, ça se peut que l'eau coule. Ben, dans un cas d'un WordPress, si on ne l'entretient pas à la même hauteur, ben, on va avoir des problèmes similaires à ce genre de choses-là. Sinon, y a-t-il d'autres éléments avant d'embarquer vraiment la sécurité? J'ai commencé à glisser un peu ouais. Sécurité, mais y a-t-il d'autres choses qu'à discuter avant de basculer sur la sécurité pour la compréhension ouais. Où on peut déjà plonger dans tout le volet sécurité?
Mais j'aimerais juste faire peut-être bonifier sur ce que tu viens de dire. T'sais, c'est vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est vrai par rapport à WordPress, c'est vrai par rapport aux maisons et c'est vrai par rapport à n'importe quelle autre solution que vous allez avoir sur le marché. Donc, l'entretien, c'est pas spécifique à WordPress. Des fois, on utilise des plateformes, on a l'impression qu'il n'y a pas d'entretien, mais c'est parce qu'on paye un frais mensuel à quelqu'un qui le fait pour nous. Mais ultimement, il y a toujours de l'entretien à faire. Il n'y a aucune solution qu'on peut laisser dormir sans qu'il y ait de problème, là, si on veut, potentiel au-dessus de notre tête. Donc, c'est le petit complément, oui. Mais sinon, on peut aller pour la suite.
Dans cette moment-là, plus que c'est très populaire maintenant, c'est comme M365, Office 365, les gens ont l'impression que, justement, mais c'est parce que c'est un système qui est vraiment géré par Microsoft. C'est pour ça qu'on a peu de choses à faire, puis on l'a tout délégué à un temps, mais on le paye, il n'y a rien qui est gratuit.
Ben oui. Ah oui, puis il y a eu un temps où est-ce que les courriels venaient avec l'hébergement et c'était inclus, puis encore là, il n'y avait pas d'évolution. Le service, comme justement ce qu'offre Office 365 ou même la plateforme Google, ben le frais est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années, alors qu'on était à moins d'un dollar par boîte. Mais ça vient aussi avec, il y a du soutien technique, il y a des mises à jour à gauche, à droite qu'on ne voit pas passer, des filtres qui sont appliqués sur du spam. Au final, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe beaucoup de choses en dessous de la couverte.
Il y a beaucoup de choses cachées, fait qu'on va basculer sécurité parce que WordPress a vraiment eu de mauvais moments. Il y a d'ailleurs un hébergeur canadien qui s'est fait défoncer il y a quelques années. Il y a plusieurs éléments comme ça, fait qu'on a l'impression que c'est un pire qu'autre chose, que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il y a des outils disponibles et des façons et des approches. Fait que je vais te laisser commencer à aborder ce volet-là.
Oui, ben en fait, moi j'aime bien comparer WordPress à Hydro-Québec, dans le sens où si on regarde l'entreprise au Québec l'entreprise d'électricité qui produit le plus de pannes dans une année, ben c'est Hydro-Québec. Donc est-ce que ça a fait de cette entreprise-là, qui est à peu près la seule sur le marché, l'entreprise la moins bonne pour offrir de l'électricité? Non. Même chose pour WordPress. WordPress propulse à peu près 4 sites web sur 10. Donc, alors qu'il existe des centaines, voire des milliers de technologies. Donc, évidemment, quand il y a un incident de sécurité qui se passe avec WordPress, ben là, on a l'impression que c'est plus grand que nature, alors que c'est juste parce que l'outil est plus populaire que d'autres technologies qui ont très probablement autant de failles, sinon plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, le cœur, ce qu'on appelle aussi le core de WordPress, le code est ouvert. Donc, il y a des millions de paires de yeux qui scrutent à la loupe ce code-là qui est disponible. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'un potentiel problème est relevé, il est en mesure d'être corrigé dans les heures ou les jours qui vont suivre avant même que quoi que ce soit se passe. Le même principe s'applique aux thèmes et aux extensions. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les thèmes et les extensions, de manière générale, ne sont pas développés par l'équipe de WordPress. Et c'est là souvent que les problèmes se passent. C'est-à-dire que si moi, je développe mon extension, que je ne sais pas trop comment coder pour que ce soit sécuritaire et que je rends l'extension disponible, des centaines, voire des milliers ou des millions de personnes l'installent et là, il arrive un problème. Ben, ce que les gens vont retenir, c'est « Ah, encore une faille dans WordPress », alors que le code n'a absolument rien à voir avec WordPress. Dans la majorité des cas de problèmes de sécurité, ce qu'on voit, c'est pas tant le problème est pas tant au niveau du code à proprement parler, mais plutôt de l'entretien qui est négligent ou, dans la majorité des cas, absent. Puis c'est là que si moi je code quelque chose, je code une extension, puis je me rends compte, ah, il y a une faille de sécurité, je la corrige, je rends disponible une nouvelle version, et que toi, de ton côté, tu fais pas la mise à jour. Ben, ton site est vulnérable, tu peux être attaqué, tu peux être piraté, mais au final, c'est par ta propre faute. Mais malheureusement, il existe beaucoup d'entreprises et même beaucoup d'agences qui ne sont pas totalement conscientes des impacts des mises à jour. Donc, il y a même des extensions qui existent pour bloquer les mises à jour. Donc, on les cache, on fait comme s'il n'y en avait pas. Fait que l'utilisateur, quand il se présente dans sa section d'administration, ne voit aucune mise à jour à cause de ce genre d'outils-là. Donc, le risque zéro, il n'existe pas. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Peu importe la solution web que vous utilisez, il y aura toujours un entretien à faire. Puis après ça, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez vous occuper de faire ce suivi-là. Parce que autant dans WordPress que dans le web en général, des vulnérabilités, il en sort à tous les jours. Donc, jusqu'à quel point vous voulez être la personne qui va faire le suivi de est-ce que chacune des technologies que j'utilise est à jour ou est vulnérable, puis est-ce que vous êtes en mesure d'appliquer les correctifs et surtout, si jamais il y a un bris, allez-vous être en mesure de le corriger? Là, c'est là qu'une entreprise comme la nôtre peut être pertinente, tout dépendamment de ce que vous avez des développeurs à l'interne, puis quels sont les outils que vous utilisez, comment vous les utilisez, etc., etc. Donc, l'outil comme tel est pas un problème.
Notamment, c'est effectivement pas l'outil, les gens sous-estiment énormément le temps que ça prend à entretenir un WordPress. Pour l'avoir fait dans d'anciennes vies, j'ai touché à ce genre de choses-là, ou d'autres systèmes aussi que je me suis amusé à avoir personnellement comme un système de courriel ou ainsi de suite. On sous-estime, et c'est énorme le temps à mettre dans ces systèmes-là. Tu parlais du courriel, justement, on voit pas, mais il y a énormément d'entretien à faire. WordPress, c'est la même chose, il y a énormément d'entretien, puis à certains égards, puis là, je ne pointerai pas nécessairement, mais il y en a certaines personnes qui font laisser croire que c'est comme une façade publicitaire, puis on peut la laisser là à vie, puis il n'y a pas de choses. Quand c'est un système dynamique, et ce système dynamique-là doit être entretenu comme tout système qui vit. Donc, on va prendre l'exemple de l'auto dans ce cas-ci. On doit changer l'huile, on doit mettre de l'essence dedans, on doit changer les pneus, on doit réparer s'il y a un bris et ainsi de suite. Donc, ça doit être vu comme cet élément-là et le faire vivre. Et si ça ne nous plaît pas de le faire vivre, de déléguer cet élément-là, ce que j'ai fait depuis, là, mes sites sont délégués, je sens mon courriel est délégué, ce que j'ai fait depuis le temps, là, mais j'avais à une époque un plaisir de jouer dedans, ce genre de choses-là, pour comprendre. Puis une fois que j'ai compris le plaisir, s'estompe assez rapidement. Et j'imagine que tous ceux qui se lancent tête baissée là-dedans en pensant que c'est facile, ça, vont peut-être rencontrer le même type de constat. Et c'est juste qu'il faut faire la bascule et aller voir des professionnels après. Là.
Exact, exact. Puis tu sais, je pense aussi que c'est plus une question d'intérêt puis d'efficacité. Il y a plusieurs choses que nous-mêmes, en technologie, on est en mesure de faire et qu'on sous-traite juste pour une question de temps, d'efficacité. Je suis beaucoup plus rentable quand je travaille sur un projet client que quand je débogue un système que je connais très peu parce que ça fait 3 ans qu'on l'a installé puis j'ai jamais eu de problème. Puis là, aujourd'hui, j'en ai un. Ben, on est beaucoup plus à la recherche de notre côté de solutions SaaS ou de compagnies d'entretien qui vont venir faire le nécessaire. Comme par exemple, tu sais, système téléphonique. Ben, c'est facile de pouvoir s'inscrire en ligne puis de le configurer. Mais la journée que le système ne fonctionne plus, puis là, il faut se démerder avec ça, ben, on peut facilement perdre 1, 2, 3 journées sans système téléphonique, avoir quelqu'un qui perd son temps à essayer de déboguer ça. Et en même temps, tous les gens qui essaient de nous contacter qui ne sont pas en mesure de le faire parce que le système ne fonctionne pas. Le même principe s'applique au site web. Donc, souvent, on a l'impression qu'on va sauver un 10, un 100 $ par mois, alors que la journée que ça ne fonctionne pas, ben, ça peut être potentiellement des milliers de dollars qui vont être perdus. Là. Donc, voilà.
Oui, tout à fait. Puis, on a le même feeling avec les Facebook, de ceux qui utilisent Facebook, faire du commerce notamment, si on perd le contrôle. Donc, c'est toujours cette façon de regarder le système comme étant un vecteur pour nous d'argent pour notre entreprise et donc de le traiter réellement comme ça et pas juste comme un pamphlet publicitaire qu'on laisse traîner sur une table. Ça a d'autres conséquences.
Exact. Un site, c'est vivant. Tu l'as dit tantôt. C'est totalement vrai.
Oui. Au-delà de cet élément d'entretien-là de base qui est justement entretenir le serveur, les thèmes et ainsi de suite, puis même les thèmes peuvent apporter des problèmes. C'est ça que les gens ne maîtrisent pas bien aussi, de tester tout ça. Il y a d'autres pratiques à avoir avec WordPress qui peuvent justement limiter ou réduire la probabilité d'avoir un problème.
Mm-hmm. En fait, tu sais, faut partir du fait que le risque zéro n'existe pas. Peu importe la solution, une solution sans risque, ça n'existe pas. Mis à part si vous dites, je ferme l'ordinateur, je le débranche d'Internet, mais là, votre solution est sécuritaire, mais personne n'y aura accès, donc ça ne donne pas grand-chose. Donc, faut partir de cette prémisse-là. Et les gens qui attaquent sont de plus en plus présents. Donc, il faut aussi commencer à avoir en tête ce qu'on appelle la cyber-résilience. Donc, le fait de dire, je ne sais pas, en fait, je sais que ça va arriver, mais je ne sais juste pas quand ça va arriver. Quand on part avec cette prémisse-là, on est en mesure de mieux se préparer pour la journée où ça va arriver. Et si ça n'arrive jamais, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'on a remis en place toutes les bonnes pratiques pour minimiser notre risque. Donc, la première des choses, peu importe la plateforme, c'est pour moi, c'est les backups. Donc, avoir des backups, là, ça règle rien, mais ça permet de se ramener à une période antérieure, advenant le cas où il arrive quelque chose de dramatique avec, dans ce cas-ci, notre site web. Au niveau des backups, trois choses. Un, les backups doivent être faits de manière automatique, de manière fréquente, et aussi déposés sur un environnement qui est différent de où se trouve notre site web de production. Donc ça, j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, des gens qui avaient des backups sur le même serveur ou le même disque dur que où il y avait leur site. Ben, la journée que le disque dur tombe, ben là, vous venez de perdre votre site et votre backup. Fait que ça, c'est la première des choses. C'est comme je dis souvent, on est excellent avec WordPress, mais on n'est pas des magiciens. Si on se connecte dans le compte et qu'il n'y a plus rien, malheureusement, il n'y a rien que je peux faire pour le restaurer. Fait que ça, c'est vraiment la base. Puis sachez qu'on n'a jamais trop de backups. On a plein de clients qui arrivent ici au début et qui disent « Ah, ben moi, j'en ai déjà des backups. » Malheureusement pour toi, on ne va pas se fier à tes backups à toi. On va se fier à nos backups qu'on va avoir testés. Ça, c'est une autre chose aussi. Faire un backup et avoir le petit crochet vert qui dit « ça a fonctionné », c'est une chose. Mais après ça, d'aller valider puis de restaurer le site pour voir est-ce que je suis vraiment capable de revenir est-ce que je suis capable de prendre mon backup et de le ramener sur un serveur fonctionnel? Ça, c'est une chose qui est très, très importante et qui est malheureusement pas accessible à la majorité des gens. Ensuite de ça, la première étape, c'est les mises à jour. S'assurer d'être à jour. Donc, je vais dire 9 fois sur 10, quand quelqu'un arrive ici pour une désinfection, il n'y a aucune mise à jour qui a été faite depuis des mois, voire des années. Fait que ça, c'est une des choses. Puis après ça, de s'assurer de garder une veille sur tout ce qu'on installe. Fait que je peux avoir installé une extension il y a 5 ans. Bien, si l'auteur a abandonné l'extension, bien, ça fait en sorte qu'il n'y aura plus de mise à jour qui vont être disponibles. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un trouve une faille de sécurité dedans qui ne sera pas corrigée ou qu'il y ait une incompatibilité quelconque qui fasse tout simplement planter le site. Fait que ça, c'est tantôt on parlait du temps, là, bien, une mise à jour qui ne viendra pas parce que l'extension est abandonnée, ça apparaît pas, ça nous saute pas aux yeux. Il faut faire des recherches sur chaque outil pour être en mesure de savoir quel est le statut de ça. Puis là, tout dépendamment de l'extension, est-ce que c'est normal ou pas que j'ai eu ou non de mise à jour disponible dans la dernière année, dans les 2 dernières années, dans les 3 dernières années? Fait que, encore là, c'est une espèce de zone grise où faut se servir de son expérience. Puis c'est là que, dans le passé, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de faire croire que ah, ben, c'est facile, tu peux gérer ton site toi-même, puis fais ci, fais ça. Mais moi, à toutes les fois que j'essaye d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a à faire, puis on le fait d'ailleurs quand on a un client, par exemple, qui quitte nos services, on a un article sur notre blog où on dit exactement tout ce qu'on fait. Ceci étant dit, comme une différence entre ça, souvent, je fais le lien avec un chef, là, avoir la recette de Ricardo puis l'exécuter, c'est deux choses totalement différentes. Fait que la recette, elle est sur notre site. Si vous voulez l'avoir sur notre blog, tout est là. Par contre, ben de faire le suivi au quotidien et de s'assurer qu'on merde pas, c'est pas évident. Fait que ça, c'est les deux choses là, de base. Si on commence par ça, là, on a couvert pas mal la base.
Ouais, puis c'est là où les gens, puis là, tu parlais des mises à jour ou briser des thèmes ou briser des plugins. Une des raisons que j'ai entendues pour ne pas mettre à jour, c'est justement parce qu'il y avait peur de briser les plugins ou briser les thèmes. Et si cela arrive, posez-vous des questions sur la qualité de votre thème et de votre plugin, parce que normalement, quand ils sont entretenus correctement, puis c'est un bon signe qu'ils sont entretenus correctement, ils suivent les nouvelles versions de WordPress. Donc, il va avoir l'élément qui va permettre justement de la mise à jour. Fait que normalement, le plugin va arriver en mise à jour avant la version de WordPress, justement pour s'adapter avec les évolutions du produit. Donc, c'est un signe si vous allez rapidement, mais ce n'est pas le meilleur signe pour savoir si le plugin est vulnérable ou pas, parce qu'il peut amener d'autres conséquences. Puis, ça prend du temps et il faut surveiller, et ainsi de suite.
Oui, puis on le voit, nous, quand un client joint notre service, on fait là, au départ ce qu'on appelle un bilan de santé. Après le bilan de santé, on fait un redressement basé sur ce qu'on a découvert. Une fois que ça, c'est fait, je vais dire 99 % des sites passent dans ce qu'on appelle notre mode régulier où on fait les mises à jour selon un cycle qui est déterminé. Puis des bris, il y en a très, 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 très peu. Là. Donc, puis on parle de milliers de mises à jour là, qui sont faites mensuellement. Là. Donc, fait que si vous avez cette crainte-là, probablement qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Puis une fois qu'on corrige ça, ben on est correct pour la suite des choses si on a fait nos devoirs.
Tout à fait. Puis je vais rajouter sur cette façon-là que vous avez, puis qui est courant dans l'industrie, c'est que comme vous vous êtes spécialisé là-dedans. La mécanisation des traitements, elle est très grande. Donc, le coût réel ou le temps réel qui est passé de votre côté à mettre à jour est beaucoup plus petit qu'une personne qui fait ça tout seul dans son sol puis qui pense qu'il est capable de faire les choses. Fait qu'il y a un gain. C'est sûr que ce gain-là se monétise, puis c'est parfait, puis il faut que ça se fasse comme ça. Mais il reste de l'autre côté qu'au-delà de ça, si on compte le temps qu'on met dessus versus le temps qu'on paye pour avoir des services spécialisés, c'est beaucoup moins cher les services spécialisés justement parce que vous êtes capable de mécaniser, d'accélérer, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'une personne individuelle peut réussir à faire.
Totalement. S'il fallait qu'on ait, disons, juste une dizaine de clients, on ne serait pas capable d'offrir le service parce que on fait ça à temps plein. Donc, on a des gens qui surveillent les systèmes toute la journée, puis on est capable de réagir dans les minutes ou heures suivant tout problème. Puis aussi, on a un bassin de sites qui est grand qui nous permet de savoir est-ce que ça, c'est un problème qu'on est en train de voir sur un grand échantillon de notre bassin de sites ou c'est comme très, très localisé. Puis en étant connecté sur diverses newsletters, diverses channel où on est en mesure d'avoir de l'information de d'autres membres de l'industrie, ben on le sait beaucoup plus rapidement que la personne qui fait ça par elle-même, si on veut. Bref, c'est notre job, dans ce fond.
Oh oui, puis ça a une valeur, ça, parce que c'est un peu aussi le débat que je souligne de façon indirecte, que les gens pensent que c'est pas nécessaire, mais c'est important ce travail-là parce qu'il a une valeur, puis... une valeur énorme sur la qualité des sites qui sont mis en ligne. Puis c'est très important justement pour qu'ils se fassent attaquer, qu'ils se fassent defacer, qu'ils soient utilisés pour faire de la publicité négative, qu'ils soient utilisés pour faire d'autres choses. Ce qui peut amener à d'autres situations un peu malheureuses pour l'entreprise qui perd le contrôle de son site.
Oui, totalement. Parce que, tu sais, comme je l'ai dit, n'importe qui est capable de cliquer sur mettre à jour. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand la mise à jour brise quelque chose ou que c'est pas le bon moment de le faire parce qu'il y a un ordre à respecter. Toutes des nuances que c'est très, très difficile à expliquer à quelqu'un. Puis c'est à force de le faire qu'on connaît ce genre de nuances-là. Mais à la base, je veux dire, on fait pas de la magie, là. On fait juste passer un temps fou à faire cette gestion-là. Donc, on est en mesure de la faire correctement. Chose qui est pas infaisable pour quiconque souhaite le faire, mais c'est juste ça demande énormément de temps pour être constamment à jour. C'est juste ça la nuance.
Tout à fait. Tout à fait. Et une fois que tout ça, dans cet entretien-là régulier est fait, dans le fond, on entretient bien notre voiture ou notre maison, il y a d'autres éléments supplémentaires qu'on peut déployer pour améliorer la sécurité générale du système, justement pour peut-être rehausser au niveau de l'authentification, au niveau d'équipement, de plugins et ainsi de suite.
Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est bon, une fois que cette petite base-là est faite, ce qu'on va regarder, c'est au niveau des utilisateurs. Donc, encore une fois, ça touche l'humain, donc le maillon souvent le plus faible. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui partagent des comptes? Donc, ça, on recommande toujours d'avoir un seul compte par personne. Ça permet, nous, du moins pour nous, de voir dans les logs qui fait quoi. Donc, des fois, on a l'impression, souvent, on a un client qui va nous dire, ah, ben, j'ai tel problème, j'ai rien touché. Puis là, bien évidemment, c'est rare des problèmes qui arrivent sans que personne ait touché à quoi que ce soit. Quand on a 5 personnes qui partagent le même accès, ben là, on n'est pas en mesure de savoir qui a fait quoi. Le but, c'est pas de trouver un coupable, c'est plus d'essayer de voir est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ou est-ce que tel utilisateur a fait quelque chose à telle date, telle heure, parce que dans nos logs, on voit différents trucs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est avoir un mot de passe qui est solide. Donc, puis ça c'est natif à WordPress. On n'a pas besoin de rien de plus pour faire cette base-là. Donc, la quantité de gens qui ont des mots de passe du genre 1, 2, 3, 4, 5 ou soleil ou même password, c'est hallucinant. Donc, on essaye de venir réduire ça. Puis après ça, on peut venir ajouter des outils supplémentaires. Donc, nous, de notre côté, chaque site qui est en entretien avec nous, on va ajouter une extension de sécurité. Donc, souvent, ça, ce que ça laisse croire comme mythe, c'est que WordPress n'est pas sécuritaire étant donné qu'on a besoin de ça. C'est pas le cas. Donc, je vous donne l'exemple. WordPress, pour pouvoir se connecter dans la section d'administration, ça nous prend un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par contre, WordPress, par défaut, ne fait aucune validation sur le nombre de fois qu'on va tenter de se connecter. Donc, évidemment, si j'ai pas le bon user, mot de passe, je pourrais pas me connecter, mais je peux essayer 250 fois si je veux en 15 minutes, puis WordPress va me laisser aller. Donc, c'est pas quelque chose qui n'est pas sécuritaire. Ceci étant dit, quand quelqu'un essaie de se connecter plus que 3, 5 ou 10 fois, ben potentiellement, c'est quelqu'un qui essaie d'entrer à un endroit où il n'y a pas d'affaires. Donc, avec une extension de sécurité, on est en mesure de pouvoir venir, par exemple, ajouter une couche supplémentaire où on va dire après 3 fois, ben, cette adresse IP-là sera bannie pendant 5 minutes, 15 minutes, une journée, peu importe ce qu'on va décider. Ensuite de ça, une extension de sécurité peut nous donner de l'information supplémentaire sur « Ah, cette extension-là, il y a une mise à jour, tu devrais la faire tout de suite parce qu'elle corrige une vulnérabilité versus cette autre mise à jour-là, ah, c'est juste des nouvelles fonctionnalités. » Ça, c'est le genre de choses qu'une extension de sécurité peut apporter. Donc, c'est vraiment une couche supplémentaire qui permet de faire des validations. Par exemple, s'il y a des fichiers qui ne devraient pas avoir été modifiés, qui ont été modifiés. Donc, tout le code de WordPress ne devrait jamais être modifié. Des fois, c'est modifié parce qu'il y a du piratage, mais souvent, ce sont des développeurs qui ne suivent pas les bonnes pratiques et qui vont modifier les fichiers de WordPress. Donc, avec une extension, on est en mesure de le voir. Puis ça, ce que ça nous dit, c'est dès qu'il y aura une mise à jour, ben, comment ça fonctionne les mises à jour, c'est que le code actuel est mis aux poubelles et remplacé par la nouvelle version. Donc, si un développeur est allé modifier le code directement, ben, évidemment, les modifications seront perdues. Donc, ça, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont en lien avec le risque, pas nécessairement directement la sécurité, mais c'est un mix et il existe là, plusieurs extensions qui offrent des centaines d'options pour, par exemple, juste permettre les connexions sur certaines adresses IP, bloquer des adresses IP. Donc, des choses qui sont plus générales et des choses qui sont plus spécifiques à notre installation. Là. Donc, ça ne rend pas WordPress moins sécuritaire. Au contraire, ça le rend plus sécuritaire pour notre contexte, si on veut.
Oui, c'est important, ça, ce que tu appelles contexte, que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que justement, si on est une institution bancaire, on risque d'être plus attaqué. On va être ciblé par des gens avec un niveau de sophistication plus élevé que si on est le dépanneur du coin. Donc, il faut justement le mettre dans le bon contexte et ces extensions-là, pour reprendre un peu ce que tu dis, vont rendre ou permettre des configurations supplémentaires qui, normalement, ne sont pas accessibles de façon native sur ce genre de choses. Comme les scans vont permettre justement de vérifier si on n'a pas fait une erreur de configuration au passage parce qu'il y a quand même des humains qui administrent. Pas tout, j'espère, mais en tout cas, une partie justement de repérer des erreurs d'inattention aux différents éléments ou des fois un peu de négligence dans certains cas justement qui ont besoin d'attraper, comme tu mentionnais, là.
Ouais, puis nous, depuis qu'on offre ce service-là, donc depuis 2017, je n'ai eu aucun cas de désinfection où on n'a pas identifié que l'erreur venait par exemple du code en tant que tel. C'est souvent, ah oui, le code n'était pas à jour, donc ça a permis cette brèche-là, mais la solution, elle était disponible, elle n'a juste pas été appliquée. Donc, des fameux zero-day exploits qu'on appelle, où il n'y a rien à faire parce qu'il n'existe pas de solution, j'en ai pas vu concrètement. Par contre, toutes des mauvaises pratiques ou des mauvaises utilisations de l'outil, ça, c'est quotidien. Là. Puis c'est pas souvent, puis juste faire la nuance, là, c'est pas toujours par négligence volontaire. La majorité des gens, quand ils arrivent ici, nous disent « Ah, ben personne m'avait dit que je devais faire un entretien quelconque. » Puis là, des fois, il y en a qui l'apprennent à la dure, d'autres, c'est moins pire. Mais ceux qui arrivent ici alors qu'ils sont infectés, c'est pas super agréable là, en termes de gestion, de coûts reliés à tout ça. Là.
Ouais, c'est beaucoup plus dispendieux régler un problème a posteriori que le prévenir dans ce cas-ci. Puis effectivement, le niveau d'éducation est malheureusement faible dans la plupart des cas. Ceux qui développent ou qui livrent des solutions WordPress à leurs clients devraient rajouter une certaine dose de formation accompagnée de ça justement pour les prévenir qu'il y a de l'entretien. Puis j'ai un cas réel où j'ai quelque chose sur ma maison qu'on ne m'avait pas expliqué qu'il fallait un entretien non standard sur cet élément-là. Et cette chose-là sur ma maison s'est dégradée plus rapidement que j'aurais pu anticiper. Puis là, j'ai été pris un peu par surprise jusqu'à temps que je parle au fabricant pour me faire dire que l'installateur m'a jamais expliqué qu'il fallait que je pose un geste annuel pour prévenir une dégradation rapide de ce morceau-là sur ma maison. Donc, c'est très important. Puis c'est là, ce volet-là est manquants et devraient justement être davantage mis de l'avant.
Puis oui, totalement. La différence, je pense, avec l'installateur dans ton cas, c'est que l'entreprise peut dire, ah, ben, avant de revendre nos produits, vous devez suivre une formation, vous devez puis peut-être former ou avoir un certain contrôle. Du côté du web, malheureusement, il n'y a aucun contrôle et quiconque décide de se proclamer ou de s'auto-proclamer expert, ben, devient expert. Donc, c'est là que souvent, c'est difficile même pour le client. C'est d'avoir, ben, j'ai deux propositions pour un site web, une à 5 000, l'autre à 10 000, puis c'est exactement la même chose qui est écrite sur les deux propositions. Ben, fait qu'on est dans un monde, malheureusement, où il y a beaucoup de cowboys. Ces cowboys-là font en sorte qu'ils baissent le niveau de qualité, baissent la perception de ce que ça coûte réellement. Puis après ça, ben, ça fait souvent une grosse surprise du côté du client où il va dire, ben là, t'as un petit peu, là, j'ai payé 2000 $ pour avoir un site web, puis ça va me coûter 100 par mois juste pour l'entretenir. Fait que là, il y a comme une espèce de disconnect entre la valeur perçue de création, puis après ça, l'entretien. Ceci étant dit, si ça vous coûte 150 $ par mois en entretien, c'est l'équivalent d'une heure d'un professionnel. Donc, chose que vous ne serez jamais capable de faire en une heure si vous faites les suivis que nous on fait. Ça se peut juste pas. Fait que là, mais je le comprends que c'est pas une dépense qui est agréable. Tout comme les changements de pneus et les changements d'huile, c'est pas quelque chose qu'on aime. Ou mettre de l'essence. Le coût qui vient avec ça, on aimerait mieux qu'à l'achat, tout soit inclus. Malheureusement, c'est pas le cas.
C'est effectivement pas la situation, surtout pour des choses qui évoluent comme le logiciel. Alors, on a fait un tour quand même assez complet. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais souligner?
Un élément que j'adore souligner qui n'a pas de lien direct avec l'installation WordPress, c'est le nom de domaine. Donc, nom de domaine, donc votre fameux satellite WP.com ou peu importe ce que c'est, votre .com, votre .ca, ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si vous perdez votre site, on peut en reconstruire un. Si vous perdez votre nom de domaine, ça peut être vraiment désastreux. Donc, souvent, le nom de domaine est lié à l'hébergement web. Fait que pour la majorité des gens, quand ils ont créé leur site, là, c'est toute la même affaire. Ça. Le nom de domaine, ça vient avec l'hébergement, alors que c'est pas le cas du tout. Puis c'est souvent une façon de simplifier ça pour le commun des mortels. On fait comme, ah, ben, tu fais tout d'un coup. Mais c'est deux choses, l'hébergement et le nom de domaine. Le nom de domaine, très, très important qu'il soit à votre nom, donc et non au nom de l'agence. Donc, correct que l'agence l'achète pour vous, mais assurez-vous que c'est vraiment votre nom qui est là. Sachez quand est-ce qu'il expire. Donc, quand on achète un nom de domaine, c'est bon pour un an. Si avant la date d'expiration, vous renouvelez le nom, il restera à vous tant ou si longtemps que vous renouvelez. Si vous oubliez de renouveler, il y a une petite période de grâce, mais le nom sera relâché sur le marché et le premier qui le rachète, ça devient à lui. Et il n'y a rien que vous pouvez faire pour le ravoir. Donc, vous assurez que dans votre compte, le renouvellement automatique est activé. Donc, c'est très bonne pratique. Que la carte de crédit au dossier, elle est toujours valide. Donc, souvent, on l'a mis puis on oublie. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais à un moment donné, ça finit par expirer. Et finalement, que l'adresse courriel qui est au compte, l'adresse, elle est valide et que ce n'est pas une adresse du nom de domaine. Donc, par exemple, dans le cas de satellite-wp.com, ben, je m'assure que l'adresse pour gérer ce nom de domaine-là n'est pas mjobin@commercial-satellite-wp.com parce que si j'oublie de le renouveler, ça va envoyer un courriel à un nom de domaine qui n'est plus géré, donc je ne le recevrai pas, donc il ne se passera rien. Puis ça, on en a vu quelques cas et c'est vraiment pas le fun quand ça arrive, que c'est par exemple une agence qui n'est plus en affaires, que c'est pas le bon nom dans le dossier. Des fois, on n'est juste pas capable de le récupérer. Donc, c'est un lien qui est indirect avec le site web, mais en termes de valeur, là, ça a beaucoup plus de valeur que le site dans bien des cas. Donc, c'était un petit complément que je voulais ajouter.
Les courriels sont liés, comme tu mentionnais, toutes les autres choses sont liées aussi. Fait que c'est un ensemble. Puis encore là, le niveau de connaissance générale des gens n'est pas très élevé. On enregistre là notamment pour aider cette augmentation de connaissances-là, justement pour que les problèmes de base puissent être résolus et que vous puissiez vous intéresser aux problèmes plus complexes aussi d'ailleurs, là, puis que tout ce que c'est.
Ben, en fait, moi, je dis, concentrez-vous puis faites de la vraie business, travaillez sur votre entreprise puis laissez ce genre de problématiques-là à des gens qui font ça dans la vie. Oui, il y a un frais, mais probablement que vous allez prendre 10 fois le temps que nous, on prend à faire quelque chose qui va être de qualité très, très, très ordinaire. Vous allez probablement oublier des détails, puis vous ne rentrerez pas dans votre argent. Là. C'est sûr, sûr, sûr.
Absolument. Je te remercie énormément. C'est très intéressant comme premier tour d'horizon. C'est sûr qu'on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans WordPress. Là, c'est vraiment juste WordPress 101. Quand on descend plus creux, puis justement, tu le mentionnais, c'est votre spécialité d'être dedans, les mains dedans. Donc, c'est sûr qu'on va aller fouiller un peu dans ces entrailles-là. Merci.
Excellent. Ben, j'ai bien hâte à la suite.